Cabe comenzat cum un projecte pedagogic classic en 2004, Nathalie Morat, estudiant en doctorat e originali de Pau, e que volu partagiar la subit d'oceanograf en artic da plus mainas de CEU de Jean-Pierre Laclau, professor de las escoles alunns. Los mainats que s'interessen aos problemes de recaujament climatic, a las questions polares e a la plaça de l'homme en aquella evolució. Que n'es cambiat pendent un an, Libe Questu Heit, plus mainats a explicar las sus descobertes, titulat Carotte de classe, que compte qui n'han seguit totes las benaleies de Nathalie Morat a sus la banquise. Aquests Libe Questu presentat en mantu colloquis scientifics au Canada, en Norvège et en Espagne, et a tau que badu l'idea donc de haver edició bilingue anglès-français et que se prepara també une version francès-usita ou francès-arabe. N'estu pas a isi que calu crea u associaciu tapu de edita a 3.000 exemplaris la carotte de classe en anglès francès. Mes deja u versiu anglès quer tustem estat u evidenci escutat a Jean-Pierre Laclau a l'origine donc d'aquest projecte pedagogic.
Évidence pour plusieurs raisons. Certes, c'est une réalité de dire que l'anglais est vraiment la langue des scientifiques. Je viens d'expérimenter moi-même à Oslo, puisque j'ai été invité à présenter la carotte de classe avec Nathalie à l'occasion du regroupement de près de 3000 chercheurs de par le monde qui se retrouvaient à Oslo pour faire un peu le bilan de leurs recherches à l'occasion de l'année internationale polaire. Ce qui m'a frappé, c'est par exemple l'absence importante des Français. Alors il paraît qu'eux ont soldé leur année polaire l'année dernière, ou il y a 2 ans même. Mais ils font bande à part, et c'est quand même un peu inquiétant, quoi, parce que, ou bien c'est une fois de plus notre complexe de supériorité qui nous conduit à regarder de très haut les anglophones, parce que c'est vrai que le mode d'accession au colloque était passé par l'anglais. Mais si on veut mettre un Argentin, un Russe, un Mexicain, surtout qui sont dans la vedette en ce moment, ou un Canadien, eh bien, ou un, à plus forte raison un Américain, bon, mais ça passe par l'anglais, indéniablement. Alors, dans la mesure où la deuxième vie de la carotte de classe a commencé justement par les meetings internationaux au cours desquels Nathalie les a présentés, il y avait une forte pression pour qu'on nous le pique même en anglais, hein, carrément, hein, c'est-à-dire qu'il soit récupéré par des Américains, des Canadiens, des Norvégiens ou autres qui l'auraient traduit, qui l'auraient diffusé à leur façon parce qu'ils trouvaient le produit intéressant. Alors bon, on n'est pas plus bête que les autres et nous on a dit, il y avait quand même une question d'amour propre aussi qui jouait, on a dit bon, mais il n'y a pas de raison que nous on s'y remette pas, c'est une des raisons qui nous a amené à nous transformer en éditeur, à avoir notre association et à mouiller la chemise abondamment pour arriver à cette édition franco-anglaise. Mais on a dit pourquoi s'arrêter là ? D'autant que, il y avait, depuis la réalisation de la carotte de classe, il y avait eu entre-temps un événement pas très loin de chez nous, l'exposition de Saragosse. Et nous avions posé des jalons importants en amont de Saragosse, soutenus au passage par la barrière, pour qu'il se passe des choses, et notre démarche carotte de classe, elle était déjà prête à être utilisée et être traduite en espagnol à ce moment-là. Bon, la disparition de la barrière nous a amené à constater qu'on ne pouvait pas aller plus loin. Bon, et puis le projet, il n'est pas mort, mais Nathalie l'a fait vivre dans l'intervalle. Moi, comme enseignant, j'ai continué à faire des choses aussi, tant que j'étais en activité, mais avec de plus en plus de difficultés. Enfin, là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ma carrière s'est terminée avec un accident, donc j'ai pas pu aller au bout de toutes ces choses-là. Et quand cette opportunité s'est présentée sous la pression de Nathalie, on a remis les choses en chantier. Pour bonheur, je n'avais rien jeté de tout ce que j'avais utilisé, et on s'est remis au travail parce que, bon, carotte de classe, c'est né à Lens. Mais la ville de Lens n'a pas souhaité s'y intéresser davantage, mais c'est un nouveau produit. C'est un produit déjà en bilingue. Et c'est un produit qui est largement enrichi de questionnements qui renvoient vers un site internet qui sera, dans notre volonté du moins, mais il y a tellement de sites qui se prétendent interactifs, etc. Je suis allé en visiter un interactif renommé sur le développement durable, celui de l'éducation nationale, au niveau national. Il y avait trois éléments d'interactivité sur je ne sais pas combien de choses. Donc il y a beaucoup de prétentions, beaucoup de. Alors j'y vais très très modestement. Toujours est-il que notre site est déjà réalisé, l'ossature est prête, il y a déjà du contenu et il ne demande qu'à devenir aussi une auberge espagnole avec l'enrichissement qu'on pourrait y apporter, avec une mutualisation des expériences, des sites à aller visiter, ainsi de suite. Et puis bon, la grosse nouveauté, c'est quand même le fait que dans la prise de conscience des jeunes chercheurs au niveau mondial, il y ait cette volonté de faire de la vulgarisation. Et cette vulgarisation, elle passe par des appariements ou des rapprochements entre chercheurs et enseignants de différents niveaux. Et là aussi, on est en train de constater que, à travers les gens que nous avons embarqués dans cette démarche, premier exemple, on reste sur l'anglais, certes, mais ce qui s'est passé avec l'anglais, à notre niveau, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas pour d'autres langues, à commencer par l'espagnol, dont la version est prête, l'occitan, dont la version est prête. Mais ce que nous avons souhaité, pour éviter aussi quelques propos du genre, vous n'êtes pas passé par des traducteurs officiels. Bon, d'abord, on n'a pas les moyens de se les payer, première chose. Et personne n'est prêt à nous les financer. Donc on travaille avec des compétences. Moi, je prétends quand même que les 8 enseignants qui ont travaillé avec nous sur ce projet-là ne sont pas des incompétents notoires. Hein. Ils sont tous formateurs de jeunes lycéens, de la seconde à la terminale, et je pense qu'ils savent un peu de quoi ils causent. Donc on peut leur faire confiance, et nous sommes partis sur cette base-là. Avec l'Espagne, on va faire la même chose. Il y a déjà des formateurs, des pédagogues et des écrivains qui sont prêts à relire et à croiser leur regard sur notre travail. Au niveau des Occitans, il y a une version qui est terminée, on vient de l'apprendre. Et il y aura aussi des lectures croisées pour arriver à un produit qui soit incontestable. Et là, on est dans la démarche scientifique.
Et puis on en est dans le même ordre d'idée, c'est-à-dire que on reste dans le domaine de l'enseignement, de la passion, du passage de l'information, que ce soit en anglais, que ce soit en français. Il faut des gens passionnés pour passer les formations et pas forcément toujours des spécialistes au sens peut-être le plus institutionnel du terme.
Ah oui, ça c'est tout à fait vrai. Mais petit exemple, juste avant de partir à Oslo, une des profs d'anglais qui nous a aidés a mis dans les mains de ses élèves un document dont nous avions besoin, nous avions besoin de cette traduction. Et comme par hasard, les élèves se sont passionnés pour cette démarche. Pourquoi? Parce qu'on est sorti de l'exercice scolaire pour leur dire, ben, tiens, voilà à quoi ça sert. Et moi, je me rappelle que dans la démarche de la carotte de classe, quand on disait aux gamins, attendez, il faut revenir remettre le métier sur un chantier, qu'il faut revenir sur un texte, il faut le retravailler parce que ça ne va pas bien. Pourquoi on vous demande ça? Parce que, pourquoi il faut de la grammaire, pourquoi il faut de l'orthographe, pourquoi il faut de la conjugaison, etc. Parce que, eh bien, c'est destiné à être lu par d'autres personnes. Donc, vous pouvez pas vous ridiculiser en ne faisant pas les choses correctement. Et à ce moment-là, bon, mais les gens, vous les embarquez, les gamins. Et derrière, eh bien, on fait passer d'autres messages. Si bien que la carotte de classe, on travaillait sur le réchauffement climatique, enfin, ou le changement climatique plutôt, sur le développement durable, sur des questions comme celle-là, sur l'éducation à l'environnement, sans en faire le plat qu'en font certains maintenant, notamment les spécialistes autoproclamés qui encombrent la planète, quoi.
Sans être péjoratif, on était parti à un classique projet pédagogique qui devait rester comme beaucoup de projets pédagogiques au niveau de l'école. Là, il est en train de passer au niveau de l'édition, puisque vous allez le faire dans plusieurs langues. La prochaine étape, c'est quoi? C'est à partir de ça, justement, aller informer. La situation, c'est ça. Maintenant, à vous de faire votre travail de citoyen.
Ah ben oui, bien sûr. Et ça, je crois que enfin, l'éducateur laïque que je suis depuis quelque temps fait que je retrouve tout à fait des propos, des démarches et des propositions que je pouvais faire comme enseignant à l'époque où j'étais en activité. Et bon, le travail d'édition dans lequel on se lance, c'est pas simplement pour participer à la démolition à la consommation des arbres de la planète. Hein. Ça correspond de deux choses. Ça correspond à un besoin ou ça n'intéresse pas. Il se trouve que sur nos deux langues régionales, je trouve des échos drôlement intéressants parce que les gens n'ont pas ce genre de produit. Alors, je dis, bon, ben, écoutez, c'est pas difficile, il est à ta disposition, il suffit de le travailler et puis de voir si. Bon, mais à partir de là, on verra s'il y a, entre guillemets, un marché. Parce que peut-être que s'il n'y a que 10 exemplaires, bon, mais c'est peut-être pas par l'impression écrite et la réalisation d'un livre qu'il faut passer. Peut-être simplement par une édition électronique. Le cas s'est posé déjà il y a 8 jours en Norvège. On nous a proposé une traduction en norvégien, en nous disant, bon, nous, on n'abuse pas dans l'édition écrite, on est passé à l'édition électronique. Donc, si le bouquin vous le voulez, vous irez le consulter, et puis emprunter des pages, voire acheter des pages sur Internet. Et puis voilà. Bon, maintenant, s'il y a 3 000 exemplaires qui sont nécessaires parce que il y a des classes qui veulent travailler dessus, il y a du monde qui veut travailler dessus, bon, ben, à ce moment-là, oui, peut-être qu'il faut passer par l'édition. Et on sera confronté au problème très vite parce que pour l'instant, nous avons l'édition espagnole. Je crois que dans le cadre du transfrontalier, on peut avoir des choses une utilisation tout à fait raisonnable. Mais on n'a pas encore travaillé complètement cette dimension-là. Deuxièmement, l'Occitan. Bon, je sais pas quel est le besoin réel et puis quelle est la demande, quelle est la possibilité. Bon, il faut donc essayer d'intéresser, de travailler en amont sur cette dimension-là. Je ne fais pas trop de différence avec la dimension basque. Par contre, sur le portugais et l'allemand, je ne sais pas quelle serait l'étendue de la demande. Donc, on aura à voir. On a pris des contacts aussi sur une édition arabe. Et ça a été avec une association paloise qui fait de l'enseignement de l'arabe. Ils étaient drôlement intéressés a priori. Bon, c'est peut-être pas un projet pour tout de suite, mais pourquoi pas?
Jean-Pierre Laclau, qui est au micro d'Yves Pédegère, d'Abla Sous Association, qui est sur le siège d'éditer cette libre bilingue français-anglais titulée Carotte de classe, une version en usita qui sortira léu-léu. N'est-ce pas possible de parler du libre pour tout les problèmes d'arrêt climatique sans avoir le sentiment du protagoniste de cette libre? Nathalie Morata, étudiante en doctorat et originaire de Pau, qui dispute chez Anne Sadar et studie sus les l'évolution de la banquise en Arctique. Au moment de son départ à l'Arctique, Yves Pédegère, qui l'avait entrevisté sur la zone de Radio Pays, car exactement le 23 de novembre de 2013. Dans le de 6 ans, sa presse, il y a eu une véritable évolution en la sua perception du changement climatique actuel, qui répond donc Nathalie Morat.
En fait, quand on avait discuté un peu de ça, on commençait effectivement à parler de l'impact du réchauffement climatique sur les milieux polaires. Et donc, je m'apprêtais à commencer mon travail sur les milieux polaires. Et il se trouve qu'il y a eu entre-temps l'année internationale polaire de 2007 à 2009. Et l'année internationale polaire a permis d'amener beaucoup de résultats qui n'étaient pas vraiment discutés avant. On a maintenant des résultats qui sont assez clairs. On est maintenant capable de voir la diminution de la banquise en Arctique. On voit clairement une diminution. On a des résultats qui sont nets. On voit une augmentation de la température et une diminution de la glace. La semaine dernière, on avait un meeting à Oslo où justement on a mis en commun un peu ces résultats parce que ça prend du temps à exploiter ces résultats. Mais maintenant, les résultats sont mis de manière de plus en plus clair, de présenter de plus en plus clairement par les grands scientifiques qui travaillent sur ce genre de résultats. Et j'espère que ça va être de plus en plus disponible pour le public. Des courbes assez simples qui montrent tout simplement une augmentation de la température ces dernières années. En 2007, on a eu un record de minimum de glace comme jamais. Et la courbe continue à descendre. Donc les résultats parlent d'eux-mêmes en fait. Donc grâce à cette année internationale polaire, je pense que les résultats sont de plus en plus clairs. Qui a effectivement la sonnette d'alarme, qu'il y a des changements qui se passent et qu'il faut agir.
Alors c'est vrai qu'on est dans un monde de l'image, donc on a toujours l'image de ce pauvre ours blanc qui n'a plus de glace et qui se retrouve dans l'eau. C'est exactement ça ou c'est caricatural?
Non, c'est exactement ça. Il y a encore un mois, j'étais en Arctique, j'étais dans la mer de Barents. On a vu des ours qui étaient particulièrement maigres. Il y a des gens qui travaillent sur le contenu en fait en gras qu'il y a dans les ours et qui trouvent que bah, effectivement ils ont de moins en moins de ce gras à l'intérieur d'eux. Mais les ours en fait, c'est ce qui est le plus visible, c'est ce qui impressionne le plus. Mais il y a beaucoup d'autres animaux qui en pâtissent de la diminution de la glace. Il y a tout un écosystème qui est en train de changer. Dans la glace, en fait, il y a des algues qui existent, qui s'appellent les algues de glace. Et en fait, ces algues de glace sont très importantes pour tout l'écosystème. C'est une source de nourriture pour tous les autres animaux qui vivent dans l'écosystème arctique. Et du coup, si cette glace disparaît, les algues de glace disparaissent et du coup ça change tout l'écosystème, c'est en train de changer. Et en fait ces algues de glace étaient très bonnes, elles avaient une très bonne qualité, c'était une très bonne source de nourriture. Donc c'est remplacé par des espèces qui sont beaucoup moins bonnes et du coup les animaux en pâtissent de ce changement de nourriture partout en Arctique, en Antarctique.
Alors vous allez peut-être mal le prendre, mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Claude Allègre. Je savais que ça vous évoquerait quelque chose. Qui vient de sortir un livre et qui dit tout ce que racontent là ces chercheurs, c'est un lobby et que finalement ils nous racontent n'importe quoi et c'est juste pour faire peur et que finalement des augmentations de température il y en a toujours eu et que c'est pas pire aujourd'hui qu'il y a quelques années.
Alors, ce que dit Claude Allègre, c'est faux. Donc, je ne sais pas comment il a réussi à transformer en fait des graphes scientifiques. Enfin, tous ces graphes sont faux. Et je comprends. C'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. La motivation qu'il a pour montrer. C'est une personne politique, donc il a un impact important sur le public. Et c'est dommage qu'il utilise ça à mauvais escient, parce que vraiment, il montre des résultats faux. Ce qui donne une mauvaise image au public et c'est vraiment dommage parce que si on s'adresse, en fait il y a un mouvement qui s'est créé un peu de réponse à ces propos qui sont faux et donc il y a un mouvement de scientifiques qui s'est créé qui essaie de démontrer justement que ces résultats ne sont pas... Enfin, ce qu'il présente, c'est faux. Alors, ce que je ne comprends pas, justement, à propos de ses propos, en tant que scientifique, en fait, il dit toujours, regardez, l'hiver dernier, on n'a jamais eu aussi froid. Mais en fait, il faut aussi... C'est vrai qu'en fait, le réchauffement climatique... Enfin, je préfère parler de changement climatique, parce qu'à notre échelle, c'est vraiment des changements climatiques. Mais on les voit quand même, ça, assez régulièrement. Mais si on veut... Il faut regarder dans la totalité. Si on regarde, par exemple, chez les Inuits ont de moins en moins de glace. En fait, la glace avant arrivait sur la côte. Donc, à cause de cette glace qui disparaît de la côte, la côte s'érode de plus en plus et leurs villages disparaissent. Les photos sont parlantes, quoi. Si on regarde une photo d'un village en train de s'effondrer, il n'y a pas photo, quoi. À cause de la diminution de cette glace, à cause de la diminution du permafrost, donc qui est le sol gelé en Arctique, à cause de ça, les villages diminuent. Donc c'est sûr, si on regarde peut-être à notre petite échelle, on aura du mal à avoir des résultats directs, mais si on regarde de manière plus grande, on peut voir les résultats directement dans d'autres endroits, quoi. Donc je trouve dommage que Claude Allègre fasse passer les scientifiques travaillant dans un domaine comme moi pour des charlots. C'est un peu son message. Ça nous discrédite et du coup après on a beaucoup de mal à se faire entendre parce qu'il est il est beaucoup plus politique que n'importe quoi. Donc je pense que la réaction qu'on aurait en tant que scientifique, c'est un peu la réaction de la tortue. On se dirait puisqu'il nous fait passer pour des charlots, on va continuer à travailler dans notre coin et puis on va arrêter de montrer nos résultats parce que de toute façon ça sert à rien. Donc j'espère que les autres scientifiques vont continuer au contraire à avoir une réaction de l'autre côté, à montrer de plus en plus leurs résultats et faire de plus en plus de vulgarisation pour montrer que ça sera de plus en plus transparent un peu la recherche. C'est vrai que c'est pas toujours accessible, mais rendu un peu plus accessible pour le public pour montrer qu'il y a des choses importantes qui se passent et qu'il faut s'en préoccuper.
Alors il y a l'exemple inverse, c'est-à-dire il y a Al Gore qui lui aussi est un politique et qui depuis qu'il n'est plus politique, diront certains, maintenant s'intéresse à la défense de la planète. Mais en tout cas, lui c'est le contraire puisque lui il fait vraiment, si je puis dire, campagne par rapport à ça.
Ben, je sais qu'il y a des gens qui en ont un peu trop entendu parler, qui en ont un petit peu marre de Al Gore. Moi, j'ai vraiment apprécié son film. En tant que scientifique, j'ai trouvé que son film était clair, que son message était clair. Un petit peu alarmiste, mais en même temps, peut-être que c'est ça qui permet aux gens de réagir, quoi. Si on donne pas un peu des catastrophes, on se dit, finalement, ça sert à quoi? Mais son film, et j'ai l'impression que, par exemple, la peau, il est passé que au Méliès. Il a jamais été passé de manière très officielle, et c'est vraiment dommage, parce que son film est clair. Il montre clairement la circulation des océans, comment la diminution de la glace impacte tout le reste de la planète, quoi. Le Gulf Stream, il parle du Gulf Stream, il parle de tout ça, parce qu'il faut pas oublier qu'on est la latitude de Paris, c'est la même latitude que Québec. Oui. Et à Paris, il fait beaucoup plus chaud qu'à Québec à cause de ce Gulf Stream. À cause du réchauffement climatique, de la fonte des glaces, ce Gulf Stream n'existe plus. Donc effectivement, le premier effet quelque part du réchauffement climatique, c'est d'avoir plus froid, parce que le Gulf Stream disparaît. Et ça, il expliquait par exemple très bien dans son film. Il faut vraiment avoir une vision globale, et je trouve que dans son film, il expliquait vraiment bien le message. Et c'est dommage qu'il n'ait pas été diffusé de manière plus, un peu moins sous la table en France.
Nathalie Emorat, estudiante en doctorat, originaria de Pau, e qui est donc des Puchezans, et estudie sus l'évolution de la banquise en Arctique, et donc de segu, sus las conséquences d'aquest recauchement général du climat sus la Terre, donc. Qu'elle donc tous dus, d'ap, l'ou seigne la clau au micro, dive pédogère.